France Culture.
Les midis de culture. Marie Sorbier.
On la connaît mondialement pour son tube New Soul, mais Yael Naïm est une chanteuse curieuse qui se risque à explorer la diversité de la musique. Elle sera mon invitée à partir de 12h50 pour nous présenter son nouvel album Solaire. Mais dans les midis, c'est la critique qui ouvre le bal. Nous allons aujourd'hui débattre autour de deux expositions, deux monographies, Léonora Carrington au musée du Luxembourg et Paul Huet au musée de la vie romantique qui vient juste de rouvrir après une période de travaux. Et je vous présente les critiques du jour. Stéphane Correa, bonjour.
Bonjour Marie.
Vous êtes éditorialiste au Journal des Arts. Et Karine Rondeau, bonjour. Corinne, oh, je vous ai appelé Karine.
Mon Dieu, Corinne. Vous êtes pardonnée, bonjour Marie.
C'est parce que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu.
C'est ça.
C'est pour ça. Et vous êtes maître de conférence en esthétique et sciences de l'art. Bienvenue à tous les deux.
Entre écrire et peindre, c'est une question de... état d'être, n'est-ce pas? Quelquefois on a envie d'écrire, quelquefois on a envie de peindre. Quelquefois ça arrive en langage et quelquefois ça arrive image. Il paraît à moi différent les images peintes que les mots écrits.
Différent en quoi?
Différent seulement. Comme un œuf est différent un haricot vert.
Eh ben oui, un œuf et un haricot vert, c'est différent. Célébré au Mexique depuis les années 1960, mais longtemps ignoré en Europe, l'artiste britannico-mexicaine Léonora Carrington, qu'on vient d'entendre, née en 1917 et morte en 2011, bénéficie enfin d'une première grande rétrospective. On va interroger ce mot, c'est peut-être pas le bon. En France, et c'est au musée du Luxembourg, l'exposition riche de 126 œuvres entend la présenter comme une artiste totale et autonome, bien au-delà du cliché de la muse de Max Ernst, en explorant les multiples facettes de son univers, héritage celtique, surréalisme, exil mexicain, féminisme ou encore quête spirituelle. C'est l'occasion de découvrir une œuvre foisonnante et l'alchimie unique entre rêve, ésotérisme et engagement. Corinne Rondeau, un premier avis.
Moi j'ai eu l'impression que je suis rentrée chez quelqu'un qui était plutôt une extraterrestre et j'ai eu un peu de mal à être sensible à cet univers qui est très cohérent malgré tout, où par ailleurs elle a beaucoup de thèmes autour de la table et de la cuisine. Eh bien j'ai presque l'impression que ces tableaux sont comme des plats. Mais en fait, on ne connaît pas les ingrédients. Alors, ça a du goût, mais on ne sait pas avec quoi elle l'a fait. Donc, il y a une étrangeté, et puis ça met en péril quand même notre manière d'aborder l'art en général. Analyse, interprétation, description. Et là, tout nous échappe. Donc, c'est une vraie expérience.
Stéphane Coréard, votre premier sentiment suite à cette exposition ?
Alors d'abord, fait rare, Marie, mais je pense que vous en êtes rendu compte, il n'y a pas de sous-titre à cette exposition, ce qui est très rare dans les musées parisiens, c'est juste Léonora Carrington, et c'est assez logique en fait, parce que contrairement à la rétrospective de Paul Huet, dont on va parler après, qui était totalement inattendue, et qui le demeure d'ailleurs, mais on en reparlera, celle de Carrington était plus qu'attendue, même espérée je dirais, parce que même si elle est incomplète et imparfaite, nous y reviendrons également, elle se présente comme un voyage, effectivement, dans cette œuvre dépaysante, à la fois dans l'œuvre et même dans la psyché de cet artiste, qui est importante et particulièrement peu montrée et connue en France, qui a pourtant été un de ses pays d'adoption.
Alors Corinne, peut-être pour commencer, l'exposition, elle cherche à présenter Carrington comme une artiste à part entière, indépendante de Max Ernst. Est-ce que le parcours, selon vous, parvient à opérer cette rupture symbolique avec le mythe de la muse ?
Oui, alors tout à fait. Dans la mesure où même on est très étonné par l'entrée de l'exposition, puisque on commence avec elle en portrait toute petite fille. Et puis ses cahiers, ses dessins à l'âge de 10 ans qui déjà est en train de nous représenter un monde, un autre monde, c'est un monde d'animaux avec parfois des petits îlots, quelque chose de très aérien, des bêtes ailées qui peuvent faire appel à tout ce qu'on lui raconte comme conte à partir de ses sources, ses racines irlandaises et celtiques de sa mère et sa grand-mère. Donc elle a déjà créé un monde à elle. Et on a l'impression qu'elle n'en est jamais sortie. Autrement dit, lorsqu'on arrive à Ernst, à quelques photos, au groupe surréaliste, elle est déjà dans un monde. Donc ce n'est qu'un événement au milieu d'autres, je dirais, que et pas du tout. Il y a pas de clou qui est vraiment planté autour de cette relation très forte, parce que c'est avec lui qu'elle quitte finalement Paris. Il se retrouve en Ardèche, et puis c'est en 39 que Ernst est arrêté par la Gestapo, et elle va fuir l'Espagne, etc. Et puis en 42, elle arrive au Mexique, et entre deux, un moment très difficile existentiellement en Espagne. Donc, vraiment, l'exposition nous fait tout de suite oublier cette dimension de la muse de Max Ernst et cette femme qui a joué un rôle comme Lee Miller, comme Nuche, comme beaucoup d'autres femmes dans le groupe surréaliste, proche et lointaine du groupe surréaliste.
Quand je vous écoute, Corinne, j'ai l'impression qu'en fait, ce qui vous a plus intéressé, c'était le parcours de cette femme plutôt que ses œuvres.
Alors non, c'est les deux à la fois, parce que à partir du moment où elle est dans un monde à elle très tôt et qu'elle ne le lâche pas, il y a quelque chose d'elle qui semble avoir été dans une sorte de suspension, de prise de possession de ce monde, avec des personnages qui reviennent. Il y a d'ailleurs très peu d'évolution formelle, même avec les dessins. Alors évidemment, il y a quelque chose des Sisters of the Moon, on voit un dessin qui est plus marqué, mais il y a déjà des personnages hybrides, lorsqu'elle est adolescente. Mais finalement, il y a comme quelque chose d'elle qui est toujours en phase avec la création de ce monde, qui est un monde en elle et qui est une volonté de créer un cosmos. Alors ce cosmos, on y est sensible ou on n'y est pas sensible? Moi, je dois dire que je pense qu'elle m'a pris en défaut. Elle a troublé les manières par lesquelles j'ai l'habitude de regarder l'art, d'avoir quelque chose à dire sur l'art, parce que justement, il y a des formes répétitives, il y a des formes hybrides, il y a des personnages anthropomorphiques, il y a des personnages un peu... Il y a toujours des oiseaux, il y a quelque chose qui tourne autour de la table, de la cuisine, donc de la magie. Donc on voit qu'il y a un monde qui est bien ancré en elle, mais effectivement j'ai une sorte de je n'y arrive pas. C'est comme si elle voulait m'hypnotiser, si vous voulez, parce qu'ils ont...
Et vous avez résisté un peu, quoi.
C'est pas que malheureusement je suis résistante à l'hypnose, donc voilà, j'ai eu beaucoup de mal, mais je trouve qu'il y a une grande force de son travail, parce que je crois qu'elle appelle quelque chose chez nous quand on ne peut pas interpréter. C'est une manière de dire: est-ce que tu es libre? Est-ce que tu es libre? Et d'ailleurs, le nombre d'oiseaux qu'il y a dans ces tableaux, c'est l'oiseau. L'oiseau, c'est quand même la symbolique de la liberté. Son espace, c'est le ciel. Il n'y a pas de chemin. Il n'y a pas de. C'est sa propre autonomie qui est en jeu dans l'oiseau. Et je trouve que, en fait, tu peux me regarder, me disait-elle tout le temps. Tu peux me regarder à condition que tu sois libre. Et je crois que je suis pas libre.
Stéphane Coréard, on l'a dit, hein, c'est la première monographie importante. Pourquoi il y a eu cet angle mort, en fait, institutionnel de Leonora Carrington en France?
Alors effectivement, la rétrospective vient après quand même deux étapes. À Paris, il faut rappeler qu'en 2023, il y a eu l'exposition Le surréalisme au féminin au musée de Montmartre. Et puis il y a eu aussi l'exposition du centenaire au Centre Pompidou en 2024.
Où il y avait quelques œuvres. Hein.
Où il y avait Leonora Carrington et toutes les femmes surréalistes. Parce que la position des femmes dans le groupe surréaliste est assez un peu paradoxale. Parce qu'elles étaient plus nombreuses que dans toutes les autres avant-gardes. Il y avait beaucoup, beaucoup d'artistes femmes surréalistes et qui ont participé aux activités du groupe, que ce soit les expositions, les revues surréalistes. Mais effectivement, c'était des muses. C'est l'amour fou qui intéresse le surréalisme. Et les surréalistes, c'est ce qui intéressait les surréalistes hommes, c'était l'amour qui portait à ces surréalistes femmes, parce que, à l'exception de Léonore Fagny, elles ont toutes été en fait des compagnes des grands surréalistes. Et c'est le cas de Leonora Carrington, qui effectivement vit une idylle avec Max Ernst. De ce point de vue-là, l'exposition, je trouve, ne réussit qu'à moitié à la sortir de cette gang de Max Ernst. D'abord parce que je dirais que l'exposition est plus pour moi, je dirais presque un faux plat. C'est-à-dire qu'il y a l'apparence effectivement de quelque chose d'une permanence, et en réalité il y a un bouleversement dans sa vie qui se noue autour de cette idylle effectivement avec Max Ernst, qu'elle recherche en fait, parce qu'elle est effectivement dans cet imaginaire de l'enfance, puisque les œuvres qu'on voit au début, effectivement c'est une découverte, parce qu'on n'en avait jamais vu autant.
Ces carnets dessinés.
Des dessins, des carnets, et puis la série effectivement des aquarelles de Sisters of the Moon. Elle a 10 ans, elle a 15 ans, elle est déjà dans une forme d'imaginaire, mais qui est plus entre Edgar Poe et Audrey Bersley, enfin qui est quelque chose aussi de très anglais, une espèce d'héroïque fantasy, hein, qui aurait peut-être plus à voir avec Marvel ou avec des, vous voyez, des jeux vidéo finalement qu'avec le surréalisme. Mais néanmoins, elle est attirée par ce qu'elle sait du surréalisme, et elle va vouloir rencontrer Max Ernst, le rencontrer, devenir sa maîtresse, s'insérer dans le groupe. Tout ça dure finalement assez peu de temps, et quand je dis que c'est moyennement bien fait dans l'exposition, c'est que moi, il y a quand même des choses qui m'agacent en 2026, Marie, je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi. Par exemple, dans chaque salle, il y a des multitude de portraits photographiques d'elle. Il n'y a jamais ça dans une exposition d'un artiste homme. Je veux dire, des femmes, comme si on avait besoin de les voir comme des choses et de les multiplier, parce que ça va, je veux dire, au début, il y en a dans la première salle, mais là, il y en a dans toutes les salles. Ça, c'est quand même un symptôme. De la même manière, il y a des tableaux de Max Ernst dans cette exposition. Pourquoi ? Je veux dire, quand je vois une exposition de Picasso, il n'y a pas de tableau de Françoise Gillot ou de Dora Maar. Je veux dire, c'est une artiste à part entière. Il y a un tableau, effectivement, qui aurait pu être là, qui est justifié de Max Ernst, c'est celui qui concerne justement l'épisode espagnol, qui est là le point de bascule dans sa vie, parce que il y a la période de la fin des années 30, effectivement, où elle est avec Max Ernst, le début de la guerre, jusqu'à ce qu'il soit interné. Et puis là, elle va en Espagne, elle subit un épisode très traumatique, évidemment, qui est un viol collectif, voilà, j'allais le dire. Elle est hospitalisée, elle subit là des traitements carrément inhumains, psychiatriques, avec une molécule qui donne des crises d'épilepsie, etc., qui la bouleverse profondément. Et il y a un tableau de Max Ernst qui raconte ou qui concrète ça, je dirais. Donc celui-là, je comprends qu'il soit là. Les deux autres, je comprends moins bien, parce que, en fait, comme toujours, c'est pour dire quelque part, il est meilleur techniquement qu'elle, il est plus au point, etc. Mais son problème, en fait, c'est pas la technique. Sauf que ce qui est intéressant, je pense, c'est qu'à partir de 42, finalement, elle s'affranchit de tout ça. Elle va vivre une nouvelle vie au Mexique avec un homme puis un autre, parce que c'est quand même une femme aussi très très libre dans la manière dont elle prend sa vie en main. Et là, en fait, il y a une espèce de retour aux sources du surréalisme. Moi, j'ai trouvé ça passionnant, en fait, avec des thèmes et des techniques issues de la Renaissance. Elle revient, si vous voulez, à Jérôme Bosch, à Archimboldo, à Bruegel. Et elle, notamment, elle reprend ce format des prêts d'elle, qui sont des tableaux extrêmement allongés, horizontaux, qui sont normalement la partie inférieure des retables. Et là, elle est dans un imaginaire, effectivement, qui est presque un au-delà du surréalisme. Et c'est là où je dis que par rapport au départ, c'est un faux plat, parce qu'en fait, elle tombe dans l'ésotérisme. Et là, il y a le tarot, il y a l'alchimie, il y a le miroir noir. Et là, effectivement, je rejoins ce que dit Corinne, c'est-à-dire que là, on n'y comprend plus rien, parce qu'effectivement, c'est un monde totalement ésotérique, qui, je pense, est en partie décryptable par des spécialistes, mais malheureusement, les cartels ne nous aident pas vraiment à nous y retrouver, et donc effectivement, on regarde ça comme quelque chose de totalement étrange et étranger.
Corinne Rondeau, peut-être un mot sur son surréalisme à elle. Stéphane vient de le dire, il y a aussi des influences de la Renaissance, par exemple, dans ce surréalisme-là. Oui. Comment vous le définiriez ?
Alors, moi, je vais vous dire, après coup, l'exposition et avoir lu le catalogue, il ne dit rien, en fait, parce que c'est vraiment de l'ésotérisme. Je me suis dit, en fait, elle, et à cause de cette enfance très marquée par un gothique, c'est vrai, un romantisme noir de la période édouardienne, quasiment, dont elle hérite en Angleterre, je me suis dit, en fait, cette femme n'est pas surréaliste. Elle a un monde imaginaire, et effectivement, comme on peut l'imaginer, avec un peu d'imagination, on peut produire des significations inquiétantes. On n'est pas nécessairement surréaliste. Alors, elle rencontre sans doute l'œuvre de Ernst, et ce qui va la conduire à vouloir le rencontrer, parce que quelque chose du surréalisme l'appelle de là où elle est. Mais pour moi, ce n'est pas une surréaliste, du tout. C'est quelqu'un qui rencontre avec son imaginaire le moment de cette puissance artistique. Et d'ailleurs, si elle finit au Mexique, dont Breton disait que c'est la terre surréaliste par excellence, c'est parce qu'il y a quelque chose d'elle qui est déjà mexicain. Donc elle trouve sa terre d'appel plus tard, tardivement, comme une boucle finalement, où la vie est toujours plus forte que le drame. Et je crois que tous les drames qu'elle veut représenter sont liés à cette manière de faire émerger, d'ailleurs ça se voit, je veux dire, même dans ses écrits, parce que j'ai eu la curiosité de regarder ses écrits, je regrette par contre dans l'exposition qu'il n'y ait pas plus d'écrits, parce qu'on voit la vitesse avec laquelle elle écrit, on voit le monde imaginaire dans lequel elle écrit, on voit la multiplicité et la multitude de métamorphoses. Donc il y a une puissance métamorphique très grande dans son écriture, les contes, les pièces de théâtre, etc., qui a un raccord avec ses œuvres, où en fait vous avez DVD, vous avez un détail avec un autre détail, un animal et puis un autre animal, etc. Vous dites, et en fait, ça se retrouve dans son écriture. Donc pour moi, c'est pas une surréaliste, mais en effet, j'ai eu la sensation de voir quelque chose très marqué par Patinir, des paysages comme ça avec des grottes. Il y a un très beau tableau de la Tentation de Saint-Antoine qui reprend une Tentation de Saint-Antoine de Bosch. Elle adapte certaines formes. C'est un très beau tableau qui était fait notamment, je crois, pour un concours. Donc elle a mis beaucoup de formes de. Et alors elle a le sens de la peinture horizontale, et parce qu'elle a une verticalisation des personnages, donc elle rythme très bien et elle arrive à fragmenter parce que les perspectives ne sont pas respectées. Donc effectivement, il y a un sens de cette folie, la pierre de folie, vous savez, il y a l'excision de la pierre de folie de Bosch aussi, et vous avez l'impression que vous êtes dans ce monde imaginaire, la peinture flamande très marquée, et qu'elle a vu d'ailleurs, hein, mais elle a rompu avec tout l'idéal italien, même si elle a rencontré la peinture du Trecento et Quattrocento à Florence.
L'exposition Leonora Carrington se visite jusqu'au 19 juillet au musée du Luxembourg et elle est accompagnée, vous l'avez signifié, d'un catalogue Grand Palais RMN Édition. Et vous pourrez également avoir un aperçu de l'exposition dans les matins du samedi avec Nicolas Herbeau sur France Culture, bien sûr. Stéphane Correa, vous avez un coup de cœur pour nous aujourd'hui.
Oui, absolument, c'est l'exposition d'Arnaud Labelle-Rojou au Macval, co-organisée par le Centre Pompidou et qui s'appelle « Voyez-vous ça ?». Point d'exclamation. Voyez-vous ça ? Qu'est-ce qu'on voit ? Bah écoutez, il était temps, 20 ans plus tard, alors qu'il était le doyen de l'exposition Notre Histoire au Palais de Tokyo en 2006, Paris, le Grand Paris, offre enfin une exposition personnelle d'envergure à l'un des artistes les plus influents de la scène française contemporaine. Vous allez y trouver des préceptes très simples, Marie, comme « foutu pour foutu, lisez Schopenhauer ». Revers de fortune, vivez en pagne. L'exposition est remplie de ces conseils bien connus d'Arnaud Labelle-Rojou qui sont comme des sentences sur des fonds monochromes. C'est des conseils à ne pas suivre au pied de la lettre, évidemment. Il y a aussi des créatures réjouissantes comme ce monumental Mister Brocoli qui est plus fort que Hulk. L'exposition se déploie dans trois vastes salles et c'est, comme toujours chez l'artiste, des murs du son où en fait il accroche à toutes les hauteurs des œuvres de toute nature et de toute date qu'il remixe en permanence. La première salle s'articule autour de son dernier ouvrage puisqu'il écrit aussi et remarquablement, qui s'appelle « Le culte des bannis » et qui est consacré à des artistes pour artistes, mais qui ont du succès dans un autre champ que le leur, qui inspire d'autres artistes, d'autres créateurs. On y croise aussi bien Chantal Akerman, qui est chère à Corinne Rondeau, que John Cage, qui, je crois, lui est cher aussi. Mais rassurez-vous, il n'y a rien de pompeux, parce que chez Arnaud Labelle-Rojou, tout relève de ce que Jean-Yves Jouannet a appelé le comique ésotérique troupier. Ça veut dire que tout est tellement au premier degré que c'en est carrément navrant, ou alors, au contraire, tellement cryptique, tellement sophistiqué, que ça défie littéralement l'entendement. Dans la deuxième salle, d'ailleurs, vous avez 365 collages qu'il a réalisés tout au long de l'année 2022, très sagement, du 1er janvier au 31 décembre, et ça s'appelle « Stop making sense », arrêtez de faire du sens, de voir du sens. Là, il y a tout son univers qui est là. Ne cherchez pas à comprendre, Marie, vous ne pourrez pas tout voir, ni même tout décrypter. Mais c'est pas grave, c'est comme le dit David Lynch, je ne vois pas pourquoi les gens attendent d'une œuvre d'art qu'elle veuille dire quelque chose, alors qu'ils acceptent très bien que leur vie à eux ne rime à rien. La dernière salle, enfin, s'appelle « Plus plus Overmore », c'est une rétrospective foutraque de tous les épisodes précédents, c'est comme une série télévisée, on n'a qu'à se laisser porter par cette intégralité que nous offre Arnaud Labelle-Rojou. C'est une plongée fascinante dans un monde qui serait comme un Netflix qui remixerait l'Underground et Groland.
Ça se visite jusqu'à quand et où ?
C'est au Macval, à Vitry-sur-Seine, et je crois que c'est jusqu'à mi-avril.
Merci Stéphane.
Le ciel est par-dessus le toit, si bleu, si calme.
On enchaîne avec la deuxième exposition au programme de notre débat critique. Peintre aujourd'hui presque oublié, Paul Huet, 1803-1869, est pourtant l'une des figures clés du paysage romantique français. Précurseur pré-impressionniste qui s'est affranchi de la tradition classique sous l'influence des grands maîtres anglais, Constable ou Turner. Le musée de la vie romantique lui consacre une exposition à l'occasion de sa réouverture, en choisissant le motif du ciel comme fil conducteur de son œuvre. Confronté à ses contemporains, Delacroix, Boudin, Rousseau, Huet révèle toute sa singularité et son rôle de passeur entre romantisme et impressionnisme dans un musée dont l'esprit semble lui aller comme un gant. Stéphane Correa, un premier avis.
Ah ben c'est Hibernatus. Pour ceux qui de nos auditeurs qui connaissent le film avec Louis Funès où,
ouais.
Voilà, où on le décongèle et qui arrive dans une autre époque, j'ai eu l'impression en allant visiter le musée de la vie romantique qui réouvre de me plonger en plein 19e siècle, mais c'est une exposition à mon sens totalement anachronique dans le sens où ça nous plonge peut-être au cœur des enjeux qui était très picrocolin, si vous voulez, de la guerre entre les tenants du paysage d'histoire et du paysage romantique et du paysage tout court. Mais en fait, l'exposition ignore totalement tout ce qui s'est passé depuis, tous les enjeux qu'il peut y avoir dans le paysage. Je n'irai pas jusqu'aux enjeux écologiques ou climatiques. Mais enfin, aujourd'hui, quand on fait une exposition sur le paysage, c'est quand même pour dire des choses. Qu'est-ce que c'était que ces paysages? Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Comment on les regardait? Comment on les regarde aujourd'hui? Eh bien, rien de tout ça dans l'exposition, qui se contente finalement d'expliquer comment Peluette, dont j'ignorais l'existence personnellement jusqu'à aujourd'hui,
vous poser la question.
Et je vais m'efforcer de l'oublier la plus vite possible, si vous voulez, est un maillon minuscule d'une chaîne dont on connaît déjà la fin, puisque c'est finalement un précurseur des précurseurs du pré-impressionnisme.
Corinne Rondeau.
Oui, bah écoutez, moi j'ai eu le plaisir de retrouver le musée de la vie romantique, déjà. Et d'abord, c'est pas vraiment une exposition sur le paysage, c'est une exposition sur le ciel. Attention, attention Stéphane.
Contresens.
Non, mais bon, voilà, je pense aussi que c'est la mission de certains musées de faire apparaître des figures qui ne sont plus là. Et je crois que le Poluette a sa place. D'ailleurs, le catalogue démontre un certain nombre de discours, de gens qui le défendent et qui font apparaître cette figure pré-impressionniste, qui font apparaître le dernier personnage du romantisme dans la peinture du paysage français. Il faut dire qu'on n'est quand même pas les meilleurs paysagistes en peinture. Donc,
vous voulez dire nous, les Français ?
La peinture française, oui. Je veux dire, c'est bon, ouais, ça passe en Angleterre, plutôt, en Grande-Bretagne d'abord, Turner, Constable. Et puis, c'est vrai que ce regard qui est posé par Poluette sur cette peinture, puisque c'est un autodidacte, il rentre un peu à l'académie, mais finalement, il est tout à fait récalcitrant. C'est plutôt quelqu'un qui va dire « je suis passionné par la littérature » et il va fréquenter quand même Victor Hugo, Lamartine, dont il est proche. C'est quelqu'un qui va rencontrer ses 20 ans, Géricault Delacroix qui vient le voir tous les jours à l'atelier. Donc c'est quelqu'un qui fait partie de ce monde-là qu'on a oublié parce que il y a d'autres auteurs qui sont plus reconnaissables que d'autres, hein, tout simplement. Moi, je trouve que ils méritent d'exister au milieu des autres. Et point barre. Après, je dirais pas que je suis absolument emballée par son travail, mais il a quand même une particularité sur laquelle je reviendrai.
Oui. Ah, suspense. Stéphane Correa, peut-être avant que vous l'oubliez totalement, Poluette, est-ce que vous pourriez nous dire à quoi ressemble sa peinture pour nos auditeurs?
Oui, donc si on n'était pas les plus doués dans le paysage, comme dit l'équipe de France, on va dire, comme le dit Corinne Rondeau, c'est parce que le paysage n'était pas un genre noble et que il est rentré presque par effraction dans la peinture française, comme je le disais tout à l'heure, sous l'angle du paysage d'histoire. Alors c'est quoi un paysage d'histoire? Si vous voulez, c'est un grand tableau avec souvent un paysage qui est vu avec des perspectives infinies. Il y a un premier plan, un plan intermédiaire, un arrière-plan, et puis tout ça, on peut le multiplier par deux ou trois, souvent en contre-plongée. Et puis, c'est un paysage avec des montagnes, des plaines, des arbres, des forêts, tout ce que vous voulez. Et puis, dans un coin, il y a un petit personnage. Et puis là, le titre vous éclaire. C'est Trouver Charlie. Qu'est-ce qui se passe dans ce tableau? Parce qu'en fait, c'est ce qui justifie de pouvoir faire des paysages. C'est que ce sont des paysages qui racontent des histoires. De mon point de vue, effectivement, même si vers la fin, quand on suppose il devient un peu gâteux ou aveugle, ça devient un peu plus pré-impressionniste, on lui reconnaît, paraît-il, d'avoir eu un sentiment de vérité dans les paysages qu'il pouvait brosser, notamment de s'intéresser aux arbres, effectivement aux nuages, au ciel, etc. Bon, je ferai remarquer à Corinne que dans beaucoup de tableaux de paysages, il y a des ciels. Néanmoins, c'est un petit peu l'exercice. Mais pour moi, l'exposition, justement, au contraire, je suis ravi, je sais que Corinne a l'esprit de contradiction et que peut-être elle le fait uniquement pour m'embêter, mais j'ai trouvé que l'exposition, si vous voulez, ne le fait pas du tout ressortir, dans le sens où déjà, il est complètement submergé par ses contemporains. L'exposition s'appelle, effectivement, elle a un sous-titre, celle-ci, En son temps. Alors, effectivement, il est bien englué dans son temps, puisque dans l'exposition, il n'y a pas moins de 27 peintres.
Oui, il y a un principe de comparaison, en tout cas.
Voilà, 27 hommes, je tiens quand même à le dire. Hein. Certains sont plus célèbres que lui, comme Delacroix, Boudin, on les a cités. D'autres sont tout aussi secondaires. Ils sont tous nés entre 1761 et 1834. Hein. Lui, il est à peu près au mi-temps de tout ça, puisqu'il est né en 1803. Et submergé aussi, parce que les œuvres sont mélangées, et qu'il est la plupart du temps en minorité. Par exemple, dans la dernière salle, celle qui est vraiment, je crois, s'appelle Le ciel transfiguré, il y a deux tableaux de Huette sur 7. On est quand même ultra minoritaire. Dans celle d'avant, qui s'appelle Le ciel dans tous ses états, je vous laisse juger de la différence avec Le ciel transfiguré, il n'y en a que 5 sur 11 qui sont signés de lui. Il y a plein d'artistes femmes, j'aurais quand même en citer une, Catherine Edmé Simonis en piste, dont au Louvre, dans les réserves, ils auraient pu prendre un tableau qui s'appelle Vue prise au Mont Doré en Auvergne, Soleil levant, qui est absolument remarquable. Il y a une petite gravure là de Paul Huet, d'ailleurs consacrée au même sujet. Soyons clairs, et on est là pour parler vrai, ma chère Marie,
s'il vous plaît.
L'exposition qui est un peu au rabais. On a privilégié des prêts de proximité. Hein, aucune œuvre ne vient de l'étranger et une seule vient d'une collection privée. Il n'y a aucun dessin de Huet, parce que si je ne le connaissais pas, je me suis renseigné. Au Louvre, il y a plusieurs dizaines de dessins de lui et des aquarelles qui, pour la thématique du ciel, m'auraient paru particulièrement adaptées, auraient permis justement de le comparer, par exemple, à Boudin, qui est le grand maître des ciels. Mmh. Il y a que 4 gravures, ce que je regrette aussi, parce que personnellement, c'est ce que j'ai préféré, oui, notamment aussi, la toute petite, parce que c'est un graveur, notamment dans la manière noire.
Manière noire,
et là, je trouve
sublimissime,
que...
sublimissime.
Voilà, et dans, ouais, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et dans les dessins et dans les gravures, en fait, il y a une forme de sensibilité, de finesse, de lâcher prise, curieusement, de laisser aller qu'il n'y a pas dans les peintures.
Corinne, vous nous avez teasé cette particularité.
Oui, oui, mais
c'est maintenant.
En fait, c'est parce qu'en fait, il y a par exemple la vue d'Avignon et il y a aussi une vue de Rouen. C'est un très grand tableau parce que les ciels sont la partie la plus grande des tableaux. Mais alors, enfin, la plus dominante dans le tableau. Donc, quand vous avez de très grands formats, parce que par exemple, la vue sur Rouen, c'est avec falaise, le tableau est gigantesque. D'ailleurs, ce sont les tableaux les plus grands qui sont ceux de Huet dans l'exposition. Et en fait, vous avez l'impression que topographiquement, il est à côté des clous. C'est-à-dire, la vue d'Avignon, je me dis, ok, il y a les remparts, d'accord. Il y a le palais des papes, d'accord. Mais qu'est-ce que c'est que ce mont, cette colline? Enfin, c'est impressionnant. C'est impressionnant de se dire, mais il a inventé quelque chose. Ou à Rouen, par exemple, vous avez le panorama de Rouen, vous avez la cathédrale, et puis d'un coup, vous avez des falaises. Et vous dites, mais quand je suis à Rouen, il n'y a pas de falaises. Et alors, ça, je me suis dit, ça aurait été très intéressant de se dire comment il est arrivé à combiner des lieux complètement imaginaires.
Enfin, mais l'expo ne le dit pas, les cartels
ne
l'expliquent
pas. Non, à l'évidence, non, même s'il y a deux moments. Alors, moi, je regrette qu'on n'ait pas vu plus d'œuvres de Huet, ça c'est sûr. Je trouve qu'effectivement, les eaux fortes et les gravures et la manière noire, qui est très belle sur un temps d'orage, soit pas plus représentée. Et par ailleurs, je trouve que c'est un peintre qui arrive au mauvais moment. Il n'est pas au bon moment. C'est-à-dire qu'il abandonne, il s'affranchit toutes les règles du paysage idéalisé italien, avec ce prix de Rome du paysage historique, comme l'a dit d'une certaine manière Stéphane. Et puis, il a une manière de faire rouler les nuages, il a une manière de faire rouler l'eau sur les rochers. Il y a un grand tableau comme ça, avec une répercussion du pittoresque, avec un seul personnage, toujours du rouge sur ces personnages. Et ça crée vraiment une espèce de tension entre quelqu'un vous fait signe, et en même temps, c'est le paysage qui est à voir. Et je trouve qu'en fait, il a une manière un peu à la Delacroix, mais non aboutie. Et ce qui est dommage, c'est que s'il était né, je pense, 20 ans après, ça aurait été un très grand impressionniste.
Face au ciel, Paul Huet en son temps, c'est jusqu'au 30 août au musée de la vie romantique. Et ben, c'est l'occasion de retrouver ce musée qui a été fermé pendant 17 mois pour travaux. Cette exposition est un partenariat France Culture. Merci beaucoup à vous deux, Corinne Rondeau et Stéphane Coréard. Et vous qui nous écoutez, vous pouvez podcaster cette émission et toutes les autres sur le site de France Culture. Et vous retrouverez bien sûr toutes les références de ces expositions sur la page des Midis.